On se retrouve pour évoquer les événements marquants de cette semaine d'actualité avec vous, Jean-Pierre Filieu. Vous êtes l'auteur d'une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient de 1953 à 1984 pour ce qui est du deuxième tome. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique. Nous ferons le point sur la situation au Mali, au Nigeria et en Libye après une semaine très mouvementée.
Une semaine d'actualité.
Mais pour l'instant, un détour par la France.
Pour votre sécurité lors de la descente du train, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. SNCF et RNF vous souhaitent une excellente fin de journée.
Il va falloir faire attention, en effet. Cette semaine, la SNCF fait parler d'elle. Révélation de nos confrères du Canard Enchaîné, la Société Nationale des Chemins de Fer avait besoin de nouveaux trains pour son réseau express régional. Des trains plus larges que les précédents vont nécessiter de raboter 1300 quais de gare en France pour un coût de 50 millions d'euros. 50 millions, c'est un minimum. Pour l'ancien ministre UMP des Transports, Dominique Bussereau, les travaux devraient s'élever à plus de 300 millions d'euros. Maintenant, le débat porte sur les responsabilités. Certains réclame la tête du patron, Guillaume Pépi. Ce n'est pas l'avis de Dominique Bussereau, interrogé par Pierre Firsian.
Non, Guillaume Pépi et Jacques Rapoport sont des hommes de qualité. RFF n'est d'ailleurs pas en cause. C'est la direction du matériel de la SNCF qui a donné les normes de ces matériels. Mais il doit y avoir naturellement, comme l'a demandé Frédéric Cuvillier, une enquête interne à la SNCF et des sanctions. Mais ça ne met pas en cause les qualités du président de la SNCF ni du président de Réseau Ferré de France.
Affaire à suivre donc dans nos journaux. Venons-en à l'Afrique et à la situation dans le nord du Mali qui a contraint le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à revoir quelque peu son agenda. Il devait annoncer lors d'une visite au Mali et au Tchad ce week-end l'inauguration d'un nouveau dispositif militaire au Sahel. Olivier Four, notre spécialiste défense, fait le point en début de semaine.
Ce déplacement de Jean-Yves Le Drian devait officiellement tourner la page de l'opération Serval au Mali. Rien n'est remis en cause, les effectifs français vont bien continuer à descendre de 1600 actuellement à 1 millier d'hommes avant l'été. En réalité, les militaires français ont quasiment bouclé leurs valises, l'armée française est en période de relève, tout cela est prévu depuis des mois. Au Tchad, à N'Djamena, un poste de commandement tout neuf est prêt à accueillir le général Marc Foucault et son état-major basé aujourd'hui à Bamako. Lorsque le transfert sera ordonné, l'état-major de Serval, soit environ 200 hommes, ira s'installer au Tchad. Cela a été prévu initialement pour le 27 mai. À Bamako, tout sera démonté. Il ne restera qu'une dizaine d'hommes à l'aéroport pour des missions de transit des avions cargo. Dimanche, Jean-Yves Le Drian devait assister à une cérémonie marquant la remise officielle du camp boiteux de Bamako aux autorités maliennes. C'est à Gao, au nord, que les Français feront porter leurs efforts. En maintenant une présence de 1000 hommes, toute cette manœuvre devait être fortement médiatisée. Une trentaine de journalistes et de parlementaires avaient été invités. Un voyage officiellement reporté compte tenu, je cite, des circonstances de ces dernières 48 heures. Les manifestations contre Serval n'y sont sûrement pas étrangères.
La suite de ces événements, bien entendu, à suivre sur notre antenne, mais faisant un petit retour en arrière, la tension est montée brusquement à l'occasion de la première visite du Premier ministre Moussa Mara à Kidal, c'était le 17 mai dernier. Selon les autorités, les combats ont fait 36 morts, dont 8 militaires. Les groupes armés ont également séquestré une trentaine de fonctionnaires. Ces derniers ont finalement été libérés le 19 mai, puis de nouveaux heurts ce jeudi. Écoutez le récit des événements avec Marie-Pierre Olfant du Service Afrique de RFI.
Tout a commencé hier par une offensive de l'armée malienne. Une opération de sécurisation des biens et des personnes, selon le ministère de la Défense. Une offensive, en tout cas décidée unilatéralement par Bamako, qui n'a informé ni la force française Serval, ni la MINUSMA. Vers 10h, heure locale, les premiers tirs retentissent et commence alors une très longue journée d'angoisse pour les habitants, comme le raconte ce témoin.
L'avancée, il me semble, de l'armée a commencé du côté sud de la ville en direction du nord. Certains soldats, n'est-ce pas, à pied, d'autres dans des véhicules, ils avancent et ils demandent aux populations de regagner leur maison. Les populations étaient, n'est-ce pas, tétanisées par les rafales.
Très vite, le MNLA commence à répliquer. Aux côtés du mouvement Touareg, il y a aussi le HCUA, le Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad, et le MAA, le Mouvement Arabe de l'Azawad. Au bout de plusieurs heures d'affrontement, les combattants prennent le dessus et le MNLA plante son drapeau sur le camp 1, bastion de l'armée à Kidal. Certains militaires maliens quittent la ville en direction de Gao. D'autres, plusieurs dizaines, se réfugient au camp numéro 2 qui abrite la force Serval et la MINUSMA. Hier soir, le MNLA assurait être en contact avec la force onusienne et Serval pour voir, je cite, « ce qui peut encore être sauvé ».
Enfin, pour être un peu plus complet sur cette séquence d'informations concernant la partie onusienne, la correspondance de Karim Lebourg à New York.
À l'ONU, l'opération militaire malienne pour reprendre Kidal est considérée comme un désastre. Tous les efforts de l'année écoulée pour amener Bamako et le MNLA à la table des négociations sont en train de s'effondrer. La perte de Kidal pose la question du rôle de la MINUSMA, la force de l'ONU sur place. Pour l'ONU, les quelques 1100 casques bleus présents à Kidal n'ont pas pour objet de combattre les groupes armés, mais au mieux de soutenir l'armée malienne. Or, le Mali n'a à aucun moment informé la MINUSMA de cette offensive, disent les responsables onusiens qui s'agacent de jouer les boucs émissaires. Le représentant de l'ONU, Bert Conders, est en train de tenter de convaincre le MNLA de quitter les bâtiments publics de Kidal. Le secrétaire général Ban Ki-moon assure qu'il n'y a pas d'autre solution au nord Mali que la négociation, une vision très différente de celle du gouvernement malien.
Jean-Pierre Filieu, on aurait pu s'attendre à autre chose dans cette partie nord du pays, débarrassée a priori des djihadistes depuis l'intervention Serval.
Bien malheureusement, Bamako a fait mentir les optimistes, comme votre correspondant à l'ONU le rappelle, c'est un désastre et ce désastre, ce sont les autorités maliennes qui en portent l'entière responsabilité. On leur a livré un pays dont l'intégrité territoriale avait été restaurée, entre autres du fait du sacrifice des soldats français, et plutôt que de se conformer à l'esprit de concorde et de réconciliation nationale que chacun appelait de ses vœux, ils ont laissé s'enterrer le processus de négociation avec le Nord et ils ont voulu faire un coup de force qui non seulement a échoué, c'était prévisible, mais qui a uni contre eux non seulement les autonomistes du MNLA, mais aussi les deux autres groupes que Bamako avait essayé de monter contre les Touaregs. C'est effectivement un très lourd échec pour Bamako, mais on peut espérer que le président Ibrahim Boubacar Keïta va en tirer toutes les leçons, et entre autres en sanctionnant les responsables militaires de cet invraisemblable fiasco.
Certains évoquent des dysfonctionnements au sein de l'armée, c'est-à-dire que là vous incriminez vraiment tout l'appareil de l'État. Certains mettent en avant la possibilité d'erreurs ciblées de certaines personnes qui auraient pris des initiatives malheureuses.
C'est pour ça que je dis qu'il faut sanctionner ceux qui sont responsables de ces initiatives si on veut espérer restaurer la crédibilité de l'État malien au nord du pays, et si on veut sortir de cette crise par le haut. À l'évidence, des responsables maliens ont cru qu'ils pouvaient attirer et la France et l'ONU dans une guerre au service de leurs ambitions les plus mesquines et les plus intolérantes. Il est fort heureux que personne ne les ait suivis, mais maintenant, il faut, pour parler très simplement, que le président Ibeka fasse le ménage à Bamako.
Du côté des autorités, les groupes armés, notamment le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, sont généralement assimilés aux terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de mettre un peu tout le monde dans le même sac ?
C'est ce que font tous les pouvoirs qui refusent de reconnaître la légitimité des revendications d'une partie de leur population, que ce soit au Mali ou ailleurs. Ce qu'on voit, c'est que les groupes soi-disant pro-Bamako se sont alliés au MNLA dans les conflits de ces derniers jours et qu'on n'a pas vu l'ombre d'un djihadiste. Donc si effectivement Bamako veut continuer à battre les tam-tams de cette propagande, il risquera de compromettre l'ensemble du travail de restauration de l'État, dont il faut quand même rappeler l'armée française a payé le prix le plus lourd. Les bailleurs de fonds internationaux se sont engagés avec une générosité sans précédent. Ce serait un message désastreux, irresponsable, que Bamako enverrait au reste du monde s'il persistait dans cette position.
Souvent les Maliens ressentent une trop grande ou dénoncent une trop grande proximité entre Français et membres des MNLA, de ce groupe armé.
Il n'y avait pas de Français avant Serval, et pourtant ils avaient perdu l'ensemble du contrôle du nord du pays. Donc ils arrêtent d'essayer de chercher des responsables en dehors de leurs frontières. Si c'est leur pays, qu'ils le gèrent entre Maliens et non comme des revanchards qui veulent écraser les aspirations d'une partie de leur population.
Donc, tout de même, Jean-Pierre Filliu, lorsque le nouveau Premier ministre Moussa Mara va à Kidal, il lui est impossible d'arriver, de débarquer sur cette partie du territoire.
S'il arrive en occupant, avec une armée qui attaque les populations locales, qui se saisit, ça a été dit, dans une offensive délibérée, déclenché par les autorités de Bamako de cibles locales, automatiquement il sera traité comme un occupant. Quand on veut aller auprès de ses concitoyens, on n'y va pas avec des soudards qui ouvrent le feu et qui d'ailleurs sont très vite balayés.
Sept jours en Afrique. Le Nigeria, impuissant face à la menace terroriste de Boko Haram, de nouvelles attaques attribuées au groupe islamiste ont fait 150 morts en deux jours dans le nord-est, fief des extrémistes, mais aussi dans le centre du pays. Les populations sont en colère. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial à Abuja, Nicolas Champeau. Un reportage qui donne une idée du climat ambiant et des problèmes qui font le lit des extrémistes.
De nombreux établissements de l'état de Borno, fief de Boko Haram, sont fermés pour des raisons évidentes de sécurité. Mais les enseignants sont identifiables et ciblés en tant que tels, insiste Steven Eticha, membre du syndicat NUT.
Avec ce qui se passe, la peur s'est installée. Le jour comme la nuit, les enseignants ont peur dans leurs déplacements. On ne sait pas ce qui peut arriver, ils doivent être protégés.
Les mois passent et la fermeture des écoles risque d'accentuer le retard des États du Nord, déplore Alima Atajuma, une conseillère d'orientation.
Le Nord est l'endroit le plus pauvre du Nigeria. Le Nord est en retard sur tout. Nous ne sommes pas éduqués dans le Nord. Mais pour nous, la place des filles est dans une salle de classe. Les filles ne sont pas juste là pour se marier.
Selon une étude publiée en 2009, deux tiers des femmes âgées entre 20 et 49 ans dans le nord-est, majoritairement musulmans, n'ont pas du tout été scolarisées, soit 10 fois plus que dans le sud. Chibok, jusqu'à l'enlèvement du 14 avril, faisait office d'exception. Auguste Dirpaya, représentant de la communauté de Chibok à Abuja, explique que les missionnaires ont ouvert de nombreuses écoles à Chibok, mais à moins d'un sursaut du gouvernement et des forces de sécurité, cet héritage, il le redoute, sera bientôt anéanti.
Jean-Pierre Filliu, vous voulez réagir à ce reportage ?
Là encore, comparaison n'est pas raison, mais la responsabilité des autorités d'Abuja est terrible. Ils ont englouti des milliards de dollars d'aide internationale pour la coopération antiterroriste. Pratiquement rien n'arrivait sur le terrain. Ils étaient informés de l'attaque prévue par Boko Haram contre ces écoles. Ils n'ont rien fait. Et après, ils se présentent en victime alors que cette partie du pays a été totalement abandonnée par le pouvoir central. On l'a entendu, ce ne sont pas les djihadistes qui font qu'il y a 10 fois plus de filles déscolarisées au nord qu'au sud du pays.
Et vous partagez l'analyse des Américains à l'égard de l'armée nigériane. Les Américains qui estiment que cette armée opère de façon brutale en rasant des villages.
Les Américains sont bien placés pour effectivement émettre ce type de critique quand on voit la façon dont ils se sont comportés en Afghanistan et en Irak. Ce qui est certain, et c'est là où je me permets de faire un parallèle entre le Mali et le Nigeria, qui n'a rien à voir avec les coopérations opérationnelles entre les groupes djihadistes, c'est que quand une armée se comporte dans son propre pays comme une armée d'occupation, on ne peut pas considérer, un, que la population va l'accueillir favorablement, deux, que les djihadistes n'auront pas des facilités de recrutement qui leur seront justement ouvertes par cette dite armée nationale, mais qui ne s'est pas comportée comme une force de sécurité, mais comme une force d'occupation.
Et le sommet qui s'est tenu à Paris, voilà tout juste une semaine, ce sommet, pensez-vous qu'il puisse déboucher sur quelque chose d'intéressant dans la région ?
Là encore, ce sommet a d'abord montré que François Hollande était au cœur de la mobilisation internationale sur le continent africain, y compris dans une zone comme le Nigeria, qui ne fait pas partie de ce qu'on appelait le précaré français. C'est pas un pays francophone, c'est pas un pays où la France a une influence, et que il y a deux niveaux. Il y a le niveau interne au Nigeria, qui est l'essentiel, mais il y a la coopération régionale entre le Tchad, le Cameroun, le Niger, qui est essentielle. Et puis, il faut quand même rappeler ce fait totalement invraisemblable que jusqu'à ce sommet, le Nigeria n'avait toujours pas demandé l'inscription de Boko Haram sur la liste des Nations Unies des organisations terroristes. Donc, il tendait la sébille et il touchait largement l'aide internationale pour combattre des gens que lui-même refusait de considérer comme terroristes.
Semaine d'actualité.
En Libye, à la suite d'affrontements à Benghazi qui ont fait près de 80 morts il y a une semaine, la situation politique reste extrêmement confuse. Le gouvernement et le Parlement sont à couteau tiré alors qu'un général dissident rallie de plus en plus de soutien. Il s'appelle Khalifa Haftar. Il exige dorénavant la mise en place d'un conseil présidentiel pour mener une période de transition. Son portrait, signé Sébastien Némette.
Khalifa Haftar était un proche de Muammar Kadhafi. Général d'armée, il part faire la guerre contre le Tchad, dirigé par Hissène Habré. Mais la campagne échoue. À Wadi Doum, en mars 87, l'officier est capturé avec plusieurs centaines de soldats. Kadhafi le lâche et Haftar change de camp pour rejoindre le FNSL, le plus important groupe de contras, les opposants au guide libyen. Washington, partenaire du Tchad, le repère. Selon des experts, la CIA se met à former Khalifa Haftar et quelques 700 hommes en vue d'une déstabilisation de Tripoli. Le général prend même la tête de l'armée nationale libyenne, la branche armée du FNSL. Mais la chute d'Hissène Habré et l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby changent la donne. Washington exfiltre les contras, d'abord au Nigeria, en RDC, puis au Kenya. En route, la moitié d'entre eux rentre au pays. Haftar, lui, devient finalement réfugié aux États-Unis, plus précisément à Vienna, en Virginie, à quelques kilomètres du siège de la CIA. L'officier y passera plus de 20 ans, avant son grand retour au pays en mars 2011 dans le camp rebelle. En mars dernier, il appelle l'armée à prendre le pouvoir. S'ensuit cette campagne contre les islamistes de Benghazi. Autant dire que le général joue un jeu trouble, tantôt vu comme un patriote, tantôt comme un pion des Américains.
Alors, Jean-Pierre Filius, général qui dispose, cet ancien général qui dispose tout de même d'armements lourds, d'hélicoptères de combat, d'avions de chasse, est-il tenté de faire ce que son voisin égyptien a fait en renversant le président Morsi en Libye cette fois?
Oh, je suis sûr qu'il serait tenté, mais il n'en a pas les moyens. Donc, il effectivement, c'est un assez piètre politique qui essaye de faire oublier ses liens anciens avec la CIA, et je suis convaincu que les États-Unis d'Obama n'ont aucune envie de s'engager publiquement à ses côtés. Ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est le chaos sécuritaire dans lequel s'enfonce la Libye et le jeu des différentes milices, notamment à Benghazi, où il y a les djihadistes d'Ansar et Sharia, à qui il a porté un coup très dur ces derniers jours. Mais il a reçu le soutien de la plus importante milice à Tripoli, qui vient de la ville voisine de Zenten, et qui a attaqué le Parlement, et qui a donc forcé ce Congrès général national, dont le mandat s'achevait en février dernier, à convoquer des élections générales en juin prochain. Et c'est pour ce combat contre les milices et cette prise en main du calendrier de la transition que, j'en suis convaincu, Khalifa Haftar a aujourd'hui des soutiens qui vont bien au-delà de ceux qui se sont déclarés. La clé de la solution en Libye ne se trouve ni à Tripoli ni à Benghazi, mais dans la ville de Misrata, qui s'était distinguée au cours de la révolution, ville dont est originaire l'actuel Premier ministre Ahmed Mitig, et ville qui, au fond, fera pencher le moment venu, la balance du pouvoir en faveur du prochain dirigeant. Mais je suis prêt à parier que ce ne sera pas le général Haftar.
Mais vous pensez tout de même que les Libyens peuvent se sortir de ce chaos actuel par eux-mêmes, sans nouvelle intervention étrangère?
Les Libyens sont profondément patriotes. Si aujourd'hui on veut griller, si j'ose dire, sa carrière en Libye, il faut apparaître comme un agent du Qatar, des États-Unis ou de l'Égypte. Donc les puissances étrangères, c'est pas seulement qu'elles sont impuissantes, c'est qu'elles sont neutralisées. Maintenant, regardez la Tunisie voisine. La Tunisie est un pays homogène, là où en Libye, vous avez des Arabes, des Touaregs, des Toubous et des Berbères. La Tunisie est un pays largement civil, alors qu'en Libye, vous avez des milices partout, vous avez une quantité d'armes affolante en circulation. Et la Tunisie a mis 3 ans, avec des crises très importantes qui ont fait craindre le pire, avant d'arriver à la constitution actuelle. Donc je pense qu'on est dans les inévitables soubresauts qui suivent un régime aussi atroce qu'ont été les 42 ans de Kadhafi, et que les Libyens sont fondamentalement d'accord pour l'unité de leur pays. On voit bien que les groupes sécessionnistes sont totalement marginalisés, pour le rétablissement de la sécurité et pour une constitution qui, effectivement, conviendra à l'ensemble des composantes du peuple libyen, qu'elles soient ethniques, linguistiques ou régionales.
Donc vous continuez de penser que cette appellation de printemps arabe s'applique également à la Libye et que ce terme est approprié?
C'est une renaissance culturelle, politique, ça c'est indéniable. Il suffit d'aller en Libye, même aujourd'hui, pour se rendre compte qu'on est sorti des ténèbres de Kadhafi vers une forme de floraison, pour reprendre la métaphore du printemps. Mais c'est surtout une histoire qu'il faut reconstruire. C'est quand même très difficile de renouer le fil d'une histoire nationale après 40 ans d'un régime aussi atroce et totalitaire que celui de Kadhafi. Donc je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis historien et je sais que tout cela prend du temps. Et en revanche, je ne fais pas preuve de catastrophisme. Je sais que les Libyens ont une ressource fondamentale et partagée qui est beaucoup plus importante que le pétrole, et c'est le patriotisme.
Que diriez-vous de cette observation de leader nigérien qui évoque l'intervention des étrangers en Libye en disant « le service après-vente n'a pas été assuré ». Est-ce que vous estimez qu'il y a eu des erreurs importantes commises au moment de l'intervention des Français et des Américains sur le sol libyen qui font que la situation est celle qu'elle est aujourd'hui ?
Là encore, d'abord, le service après-vente d'une révolution, c'est une réflexion particulièrement mesquine, discourtoise, mais qui en même temps révèle une mentalité néocoloniale, et c'est intéressant qu'elle vienne de la part d'un leader africain. C'est l'idée que, après tout, les Libyens ne seraient pas capables de s'organiser tout seuls. Il faudrait que les Occidentaux soient présents, patrouillent. Je crois en revanche deux choses. D'une part, que l'intervention était nécessaire, sinon il faut bien savoir que un Kadhafi restauré aurait déstabilisé la Tunisie, aurait déstabilisé l'Égypte, et que les Occidentaux ont bien fait de ne pas la poursuivre au-delà de la chute de Kadhafi, et qu'après, effectivement, les peuples font leur propre histoire. Aujourd'hui, on a ce problème de milice qui est très grave, vu qu'il s'agit aussi d'une forme de terreur, d'une forme de dictature, quand des miliciens refusent l'état de droit et imposent leur propre diktat. Mais je ne vois pas comment une force internationale aujourd'hui pourrait s'ingérer en Libye pour dire aux uns ou aux autres de faire ce qu'elle souhaiterait.
Mais en fait, si les Nigériens évoquent cette question, c'est aussi qu'ils subissent sur leur sol l'afflux d'armements venant de Libye et qui d'ailleurs transitent par le Niger pour arriver jusqu'au Nigeria, jusqu'au pays voisin où se trouve donc Boko Haram. Et donc, ce sont les dommages collatéraux en fait de cette intervention qui sont traités de cette façon.
Quels étaient les dommages collatéraux de Kadhafi sur le continent africain? On pourrait peut-être essayer d'en parler un peu, hein, entre les différents mouvements qu'il soutenait, les différents coups d'État, sécessions, dictateurs qu'il avait portés à bout de bras. Est-ce que on voulait, alors là reparlons du Mali, que les Touaregs restent en Libye à tuer des Libyens plutôt qu'ils rentrent dans ce pays qui est le leur? Et effectivement, quand ils sont rentrés, on sait que ça a été avec une violence qui a entraîné la quasi-sécession de 2012. On ne peut pas renvoyer la Libye sur la planète Mars. Elle est sur le continent africain et effectivement, elle a des interactions dont aujourd'hui on voit l'aspect négatif. Mais si vous parlez aux Libyens, eux, ils trouvent que l'immigration africaine illégale sur leur sol, l'arrivée de vagues depuis l'Afrique subsaharienne, eh bien, ça les déstabilise tout autant que ces pays se disent aujourd'hui déstabilisés par leurs voisins du Nord.
Merci Jean-Pierre Filieu. Je rappelle que votre ouvrage, publié par Futuropolis, s'intitule « Les meilleurs ennemis, une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient ». C'est le deuxième tome. On en attend un troisième ?
Tout à fait, il portera sur la période de 1984 à 2013 et donc il s'achèvera avec Barack Obama.
L'émission se termine, merci également à Vanessa Rovensky à la réalisation. Et voici tout de suite un nouveau journal sur RFI.